Bonjour, bonjour, galérienne, galérien, bonjour en ce mercredi 11 juin pour l'émission Livres et Amis. Eh ben oui, il est 11h16, je suis désolée, on avait un souci. Figurez-vous que le studio était fermé, les petits camarades de l'émission précédente avaient claqué la porte en sortant. Et ben notre technicien Jules a été obligé d'aller chercher la clé de secours. Donc merci, merci, merci Jules d'avoir pris son vélo et d'être allé chercher la clé de secours. On commence à 11h16 au lieu de 11h, mais c'est hyper méritoire, hyper sympa, enfin bref. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce mercredi 11 juin, pour la suite du livre de Christiane Taubira, Nuit d'épines. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait bien aimé cette lecture. On va la reprendre dans quelques instants. Je vais juste, comme d'habitude, faire un petit peu le point sur l'actualité culturelle marseillaise. Vous avez vu, il fait beau, il fait chaud. Alors le soleil et la chaleur, c'est super chouette. C'est même bizarre, hein, un drôle de temps brumeux cette semaine. Un ciel blanc, l'humidité. Nous, on a plutôt l'habitude du ciel bien bleu, mais c'est pas le cas. Et quand même, comme il fait chaud, vive la plage. Allons nous baquer, allons nous baigner, allons prendre la chaleur. Et puis, quand on en a assez, ben, allons nous rafraîchir au cinéma. Dans notre cinéma Gyptis, qui est le cinéma géré par la Friche, rue Loubon, nous avons cette semaine deux choses intéressantes. Dans la peau, c'est un film de Pascal Tessot, réalisé à Marseille, tourné à Marseille avec des techniciens marseillais, enfin bref, un film marseillais sur les quartiers nord et sur surtout le crump, si vous voulez, en bon français, cette espèce de danse théâtralisée, revendicative, comme on a eu d'ailleurs des exemples aux F, à la Joliette, pendant l'hiver, puisqu'il y a eu des projections en avant-première du film donc, de Pascal Tessot, Dans la peau. Et là, il passe toute la semaine au Gyptis, donc vous pouvez aller voir les jeunes danser et chanter et jouer le crump. C'est assez chouette. Le film a des faiblesses, mais c'est quand même globalement assez chouette. Et puis aussi en sortie nationale, en même temps ou presque que le Festival de Cannes, est sorti donc sur les écrans Jeune mère des Frères Dardenne. Et c'est pas du tout la misère comme quelquefois dans les Frères Dardenne. Les jeunes mères en question, ce sont des jeunes femmes dans un hôtel maternel, mais qui nous disent au contraire comme elles peuvent avoir l'espoir et comme elles ont encore la vie devant elles. Donc, Jeune mère des Frères Dardenne, c'est une vision sympathique et plutôt positive de ces jeunes femmes, justement, qui sont prêtes à affronter la vie avec leur bébé. Et à La Baleine et dans d'autres lieux, ben, y a le festival Ciné-Sciences, un peu comme chaque année, c'est présenté par Aix-Marseille Université. Je vous ai dit à La Baleine et dans d'autres lieux, oui, il y a des projections, des conférences, des discussions, des vrais comptes rendus de travaux scientifiques sur l'eau, l'environnement, etc. Donc, allez voir le site internet Ciné-Sciences et vous verrez, il y a plein de choses. Alors, retour au livre de Christiane Taubira avec ses longues phrases précises, avec de nombreux adjectifs, avec l'évocation de la Guyane, oui, la Guyane de son enfance, où elle est allée suivre les cours dans une institution religieuse et elle en a quand même gardé une certaine dent contre les sœurs de l'institution, avec des piques ironiques, sarcastiques, bah oui, contre la religion, contre la politique conservatrice, contre le colonialisme, contre le racisme, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les clins d'œil de Christiane Taubira sur la réalité de cette, entre guillemets, colonie française sur l'Amérique, enfin disons sur un petit bout d'Amérique latine, là, qu'est la Guyane. Et dans son institution religieuse, ben non, on ne parlait pas vraiment de maltraitance, mais on se rend compte quand même qu'il y a vraiment des brimades multiples, des remarques acerbes contre ces jeunes filles de couleur, alors que les religieuses, évidemment, sont souvent tout à fait blanches. Et ça lui fait dire à notre Christiane, là, Ça nous fait dire que oui, elle se rebelle dans un certain nombre de cas contre justement les règles des religieuses. Et on va commencer la lecture avec une phrase que j'aime bien. Vous savez que ça s'appelle Nuit d'épines, notre livre. Et donc, Christiane Taubira y développe son, comment pourrait-on dire, son sentiment de complicité avec la nuit en général. La nuit, elle est souvent éveillée, elle lit, elle réfléchit. Et là, elle nous dit, cette nuit, je règle mes comptes. C'est-à-dire que dans sa pensée personnelle de jeune adolescente, eh ben, elle réfléchit à, au fond, tout ce qu'on essaye, enfin, tout ce avec quoi on essaye de lui bourrer le crâne. Et elle nous dit, cette nuit, je règle mes comptes. Oui, d'une traite. Et par exemple, contre les 7 péchés capitaux. Et si je les rendais capiteux, les péchés capitaux, quel meilleur sort mérite-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas une si belle revanche à prendre? Ils n'ont quand même fait que pourrir la vie d'un certain nombre de jeunes pendant un certain nombre de siècles contre les élans du plaisir. Alors oui, je vais les démolir, les péchés capitaux, je vais les désorienter, je vais les mettre à l'envers. Et par exemple, oui, en les mettant dans le désordre, au lieu de les apprendre par cœur et de les donner comme ça, comme une tirade par cœur, je vais essayer de les disperser comme dans les dialogues des films de Blier par Audiard. Comme eux, je vais dire, ouais, je ne correctionne pas, je soigne, j'ordonne sévère, j'éparpille, façon puzzle, je dynamite, je disperse, je ventile. Bon, ils ne parlent pas comme ça, mais quand même, hein, les personnages de Blier, on pourrait imaginer qu'ils sont là et qui nous parlent avec ce bon accent qu'on aime des quartiers. Alors, dit-elle, beaucoup plus sérieusement, cette nuit, je règle mes comptes, je vais me faire plaisir. Allons les pêcher, on change de voisinage, on quitte le confort du voisin d'avant et du voisin d'après, on joue au jeu des 7 péchés sur le modèle des 7 familles, on attrape les cartes, on les bat, on les rebat, on les injecte de hasard, et c'est comme si on allait les destituer. On fait entre les péchés comme un hasard retors. Et on se donne même des allures d'objectivité. Allez, peine capitale pour les péchés capitaux. Et donc, délibérément, je les maltraite. Allons-y et commençons. C'est Françoise qui va commencer ça avec la gourmandise.
La gourmandise sera la première à dire la vérité. Et le premier qui dit la vérité, Béard le Martel, il doit être exécuté. Le fait est que, exception faite des agapes romaines, les repas copieux des rois et des riches ne sont pas discrédités. Certes, il y a le Pantagruel et Gargantua, mais ils en font trop, et c'est de la littérature. On passe tout à la littérature, si elle est belle, pas seulement sur le fond, mais aussi, mais pas seulement sur le fond, dans la langue aussi. Justement, que fait-on de la gourmandise pour les mots? Moi, sans qu'on me le demande, je passe aux aveux. Il y a ces mots que j'aime susauter en les laissant fondre sous ma langue, comme une perle de gelée royale. Essayez vous aussi avec sarbacane, marquescence, querelle, touillet. Pas besoin d'autres motifs que leur son mélodieux. Poursuivons avec la fragile balsamine ou la prometteuse maïeutique. Personnellement, je me garde de l'hermine. Mais bon. Reprenons. Il y a les mots dont j'aime les faux airs énigmatiques, amok, mitant, galta, ceux qui font commerce avec le lointain ou l'éloigné, tels l'ambre, le satrape, pataphysique, le risque, le musc et le jamboré. Sans compter tout cela qui met à l'épreuve nos certitudes comme l'adhérence, l'affectation, la zizanie, ceux qui défient notre sagacité, les acquis et l'acquis de conscience, ou ce même cru qui vient de croire et croître.
Et ce même cru qui vient de croire et croître, elle a raison, on dit toujours cru.
Nous pouvons garder à l'œil les mots ambigus comme agonir, les mots récalcitrants comme aigre-faim, les mots hypocrites comme amnistie, allusion, et même ceux qu'on a longtemps accusés de vulgarité, les fesses et les fesses. L'épine n'a rien à faire des épines et l'échine s'éreinte.
Eh oui, l'épine, c'est le titre de son livre.
D'autres mots ont l'air d'oiseaux de passage, d'érédire, décalaminer, désencaillé. la momie, le sinus et le cosinus. Nous avons aussi les faux amis, ces baladins et paladins, aviron et environ, avènement et événement, et les vrais ennemis, l'arbitre et l'arbitraire. Quid de nos frayeurs face à la vague qui divague, ce que je fais, j'en conviens, en ce moment. La lettre que je vous glisse entre les mains, madame, et qui est à remettre à un tiers, est-elle à l'attention ou à l'intention de tiers? Attention, ce tiers est sans H, ni majuscule. Je ne vous parle pas de l'ennemi de Louise Michel. Les ennemis de Louise sont mes ennemis. Jean Ferrat est d'accord. Il va plus loin que moi dans la raideur, et il sait déjà crier joliment et résolument son amour à la France dont M. Thiers a dit qu'on la fusille.
Eh oui, vous savez, Thiers, qui avait condamné Louise Michel à l'exil en Nouvelle-Calédonie, mais il y en avait aussi qui avaient été condamnés au bagne de Cayenne, en Guyane. Donc, quand on est Guyanais, on sait que le bagne, là, il n'était pas loin. Et dans le bagne, bah, c'était souvent des pauvres gens qu'on enfermait parce qu'ils n'avaient pas su se défendre contre le pouvoir royal ou même, en l'occurrence, contre le pouvoir de la République. Bref, Christiane Taubira, elle défend ceux de la France dont M. Thiers a dit qu'on la fusille. Continuons.
Et pour des mobiles très directement liés au présent exercice, j'ai quelques raisons de suspecter les faux frères et sœurs que sont l'envie et l'envie. Enfin, pour qui s'entête à croire que cette exploration est spécieuse et fastidieuse et veut trouver plus de charme au raisonnement prosaïque et à l'obéissance, et pour reprendre, en faisant l'intéressante, les préoccupations eschatologiques de sœur Joseph, noire et affable, rabaissée comme nous, cela se remarque, au rang de subalterne.
Eh oui, les Noirs rabaissés au rang de subalterne. C'est quelque chose qu'elle dénonce dans son livre à peu près sans interruption. Parce que, effectivement, dès qu'on parle d'éducation, dès qu'on parle même simplement d'instruction, en Guyane, quand c'est fait par les religieuses en particulier, eh ben, y a un grand mépris pour ces gens locaux qui n'ont pas la peau de la même couleur et qui ont donc la peau un peu foncée. Alors, ensuite, eh ben oui, tiens, justement, l'envie, indéfendable l'envie. A priori, je l'avoue, je le confesse, tout à fait indéfendable. J'aurais le plus grand mal à lui trouver des circonstances atténuantes, je ne la fréquente pas d'ailleurs. Et cela sans le moindre effort. Jamais qualité d'autrui ne m'a mortifié, le bien d'autrui est à autrui, et tant mieux pour autrui. Aucune privation ne m'affecte, j'ai compris depuis longtemps qu'il vaut mieux m'en accommoder. Mais le temps passe moins vite que celui de Ronsard au soir à la chandelle, mais même dans nos nuits équatoriales, il passe son chemin sans guère musarder. Alors, au suivant, péché capital suivant, la colère. Ah, la colère. Et le déluge, ce n'est pas un coup de colère, peut-être? Quand même, de la part de Dieu, tout inondé, mais c'est l'arme nucléaire de l'époque. Pas de pitié, pas de quartier. À part Noé et sa famille, il n'y avait donc pas d'innocents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette colère? Changeons de pied. Zola avec son accuse, j'accuse, pardon. Zola avec son j'accuse pour défendre Dreyfus et la vérité, c'était une colère, mais c'était une saine colère. Sojourner Truth, devant cette assemblée d'hommes qui se croient supérieurs aux femmes et aux esclaves, il n'y a, bien sûr, que des traces de colère dans son discours « Ain't a woman? Est-ce que je ne suis pas une femme ?» Ou Billie Holiday, elle est en colère aussi lorsqu'elle chante « Strange fruit », vous savez, ces fruits étranges de pendus, de lynchés, qui pendent aux branches des États du Sud aux États-Unis. Eh oui, il y a bien des colères qui peuvent s'exprimer, avec ou sans hurlements, avec ou sans musique. Finalement, elle a souvent de bons côtés, la colère. On a beau tourner et retourner les choses comme on veut, le seul sujet à ne pas discuter, c'est la justice. Oui, il faut se rappeler que Madame Taubira a été ministre de la justice quand même. Alors, pas juste abuser de la force, pas juste mettre des inégalités entre les gens, entre les enfants ou les adultes, pas question d'humilier. Je connais des gens qui font des crises colériques, oui, des colères homériques, mais quelquefois la colère est une justice. et elles ont moins d'effet que le déluge. Alors finalement, même le Dies Irae de Mozart, c'est une colère, mais c'est une saine colère. Revenons à autre chose, la nuit toujours qui nous occupe. Vous savez, cette bête caractéristique d'Amérique latine, le tatou, avec ses drôles d'écailles, le tatou qui se met en boule, le tatou qui se déboule, le tatou dort le jour. Je me demande ce qu'il peut bien fabriquer la nuit. Les Amérindiens, les Indiens de notre Amérique, racontent donc qu'à la création du monde, alors que la lumière se répandait partout, tout le temps, les hommes ont dû, pour obtenir quelque repos, emprunter la nuit à des animaux tour à tour, jusqu'à trouver la bonne durée pour la faire alterner avec le jour. Après avoir essayé la nuit de la souris, trop courte, puis celle du maïpouri, trop longue, ils ont fini par adopter la nuit du tatou. Ils ont privé le tatou de sa nuit. Alors maintenant, le tatou dort le jour. Et non, il dort la nuit. Mais que fait-il le jour? D'autant qu'ici, les nuits sont égales au jour. Nous sommes sur l'équateur. La rotation de la Terre se fend pile en deux sous l'équateur. Moitié pour le jour, moitié pour la nuit, toute l'année. De 6h à 18h et de 18h à 6h. Finalement, pour le tatou, c'est son affaire. Il peut faire ce qu'il veut la nuit. Et il a sûrement de belles nuits. Vous savez, il y en a qui l'ont dit, mes nuits sont plus belles que vos jours. Ben oui, c'était Raphaël Billadou qui avait dit ça. Le nombre de gens qu'on tue au nom des religions. Alors là, donc, Madame Christiane Taubira passe sur un autre déni de justice, pourrait-on dire, le problème des religions. Et le problème des religions, ben, elle a bien des choses à en dire. La première remarque, c'est en effet, le nombre de gens qu'on tue au nom des religions d'amour. Par exemple, ici, dans nos contrées, ce Lope de Aguirre, el loco, le fou, qui sévissait par le fer et par le feu. Ils étaient tous complètement déboussolés par ce mythique Eldorado dont on leur avait raconté tant d'histoires, qui devait se trouver, oui, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans la Caraïbe, enfin bref, ils étaient tous venus d'Espagne ou du Portugal à la recherche de l'or des Amérindiens. Et selon des récits transmis par la tradition orale, mais qu'on retrouve aussi dans des carnets de navigateurs, on racontait en effet cette histoire d'Eldorado, cette histoire de roi ruisselant d'or, cette histoire de personnes baignées dans l'or, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Alors les conquistadors, de plus en plus fébriles au fur et à mesure qu'ils ne découvraient pas ce royaume de l'or, continuaient leur conquête et tuaient, comme on l'a vu, par le fer ou par le feu, obsédés par l'enrichissement rapide. C'est quoi là le péché? C'est la cupidité. Donc, ils sont obsédés par l'enrichissement et ils, vous savez, c'est comme l'histoire de la poule aux œufs d'or. Ils essayent de s'emparer de tout ce qu'ils trouvent, des hommes ou des poules élevées en liberté, qui essayent de leur échapper, bien sûr. À un moment, ils trouvent même, en effet, des poules qui, parce qu'elles picorent sur les bords d'une rivière où il y a, dans les alluvions, quelques petits copeaux d'or, font des cacas d'or. Il faut être entiché quand même, comme dans la fable de La Fontaine. Ouvrir le ventre des poules pour trouver, entre guillemets, la poule aux deux œufs d'or ou la poule au caca d'or. Il les achetait au marché de Carthagène des Indes pour les étriper et essayer de récupérer dans leur ventre des pépites ou des paillettes que, bien sûr, ils ne trouvaient jamais, mais qu'aurait pu contenir leur gésier. Je ne sais pas combien ils en ont tué comme ça, comme cet abruti de fermier de la fable de La Fontaine. Ou simplement, peut-être, les faisait-il vomir. Enfin bref, cette histoire de cupidité, c'est une histoire sans fin. Et ça peut nous mener à un autre péché, vous savez, l'avarice.
Ça peut néanmoins nous mener à l'avarice. Avarice, cupidité, avidité, rapacité, pingrerie, tout ça, c'est du pareil au même. Ce sont les riches qui peuvent être chiches, non? Qu'est-ce qu'elles ont à nous bassiner avec l'avarice? avec le peu qu'on possède, même si on compte les filles qui arborquent leurs corsages brodés et leurs chaussures de prix, on peut éventuellement être égoïste, ce qui n'est guère mieux. Mais alors, avare, comme Harpagon, celui de Molière? D'abord, tu prends tout Molière, c'est drôle, parfois très drôle, mais ce n'est pas crédible. Personne ne peut avoir un défaut aussi accentué que son misanthrope, être aussi débile que son malade imaginaire, aussi abracadabrant que son scapin, aussi prétentieux que son don Juan, aussi ridicule que ses femmes savantes, sauf la sympathique Henriette. Au moins, on sent bien que Molière lui-même s'amuse et qu'il est pris pour nous faire rire, réfléchir aussi, mais surtout rire. Et les vers sont souvent drôles, assez faciles à retenir vu leur rythme. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Il n'a peut-être pas complètement échappé aux préjugés de son époque. Et si l'on se réfère à quelques vers méprisants, « Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. » Peut-être aussi qu'il voulait surtout dénoncer les attardés. Vous regardez dans tous les sens, c'est toujours contre nous les filles. Pour en revenir à l'avarice, La Fontaine l'a dit avec sa poule aux œufs d'or. L'avarice perd en voulant tout gagner. Voilà, mesdames les sœurs, épouses du Seigneur, nous avons compris. Toutes les leçons de morale en témoignent. Se cramponner à ses biens et en devenir esclave, c'est surtout de la bêtise. Sinon, c'est une maladie. Dans ce cas, il faut soigner les gens au lieu de les saouler, avec des prêchis-prêchats. Ça ressemble à une mauvaise manœuvre pour nous faire croire que, commençant d'héberger petitement en défaut ses péchés capitaux, nous finirons comme les caricatures de théâtre et de fables. Et nous échouerons en enfer, comme elles le prétendent sans cesse. À trop exagérer l'enfer, elles le rendent invraisemblable. Il finit par ressembler à une imposture. Elles pourraient nous dire paresse. Qu'est-ce que la paresse? Est-ce l'interdiction de rêvasser?
Attends, on va peut-être juste s'arrêter là. Pour la musique. Parler de la paresse. Non, je voulais m'arrêter sur quand même la critique justement des sœurs de la religion, enfin de ces sœurs religieuses, qui, comme elle dit, font du prêchi-prêchat. Parce que c'est vrai que l'avarice, quand on n'a rien, on risque pas de garder grand-chose. Et donc, elle dit, Christiane Taubira, qu'en effet, tout cela est un peu exagéré. Dans les pièces de Molière, ça la fait rire. Dans le quotidien des religieuses qui critiquent, ou enfin qui même vont jusqu'à critiquer les jeunes filles qui n'ont rien du pensionnat où elles sont censées les éduquer, finalement, ça la fait un petit peu moins rire. Alors, oui, tu avais raison, on peut s'interrompre pour la musique. Et on va, pour la tradition, mettre de la musique de Touloulou. Les Touloulous, ce sont ces femmes grimées, parées, masquées, de la tête aux pieds, des pieds à la tête et même jusqu'au bout des doigts. Ces femmes Touloulou qui, dans le carnaval guyanais, mettent vraiment le monde à l'envers, puisque sous leur déguisement total, elles se cachent totalement. Et elles prennent tous les droits, et en particulier le droit, oui, le droit d'exister, non plus comme des femmes, bien rabaissées par les hommes, mais comme des femmes qui gouvernent. Pendant tout le carnaval, les Touloulous, non seulement sont reines, mais sont rois. Alors, la danse des Touloulous, écoutez bien, ça va commencer par un tout petit rythme, on est en ville, on va au carnaval, et une fois qu'on y est, ça y est, on danse la danse des Touloulous. Merci, Jules.
Thank you.
danse des touloulous pendant le carnaval, le monde à l'envers, les femmes qui dominent. Franchement, allez voir les clips de danse de touloulous sur Internet, ça vaut le coup. Les femmes avec leurs somptueux costumes cachés totalement, y compris par des masques, y compris sur les yeux, sur la bouche, sur les mains, pour qu'on ne les reconnaisse pas et qui se permettent des tas de choses. C'est absolument génial. Donc, après la danse des touloulous, on va continuer les péchés capitaux. On va prendre la paresse. Là, juste, on va brièvement parler de la paresse et de la luxure, et après, on verra.
Qu'est-ce que la paresse ? Est-ce l'interdiction de rêvasser ? L'esprit n'est pas forcément au repos, tandis que l'on rêvasse. Là, maintenant, j'écoute de ma radio qui crachote une émission où Leonard Bernstein déclare que l'Italian Concerto de Bach est pure Italian Melody et qu'il lui inspire à griffe un chagrin. Je comprends bien ce chagrin singulier qui donne à la douleur un léger goût sucré. C'est vrai, j'ai liquidé mes devoirs et mes leçons, cependant je les ai faits et je les ai apprises. Je n'y ai pas pris un plaisir particulier. Rien d'étonnant à cela, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Je me délecte à écouter cette émission. Où est le mal ? Bernstein explique qu'il a d'abord entendu, adolescent, la passion selon saint Matthieu, un oratorio.
Et
maintenant, silence. Sous les doigts agiles défile le concerto de Bach. J'écoute sans rien faire, sans rien dire et surtout sans rien faire. Si c'est cela la paresse, je rempile. On verra bien au jugement dernier si Saint-Pierre y est insensible. La luxure, c'est une autre paire de manches. Elle nous explique patiemment qu'il s'agit d'impureté, que le malin...
C'est toujours les religieuses, au pluriel.
Que le malin n'est jamais loin, qu'il tisse et brode la tentation pour le sexe, et c'est sa façon de braver le Seigneur Tout-Puissant et Omniscient. Elle nous parle de Bacchus et des bacchanales en faisant crisser les mots comme si Bacchus en personne ou en Dieu était tapis derrière la porte et qu'elle voulait lui signifier qu'elles l'ont à l'œil. Par contre, Motus sur les Borgia, le pape Alexandre VI, sa compagne de 15 ans, Giulia Farnese, et sa kyrielle d'enfant. C'est bien à leur insu qu'on apprend ces choses-là. Orgie, Borgia, c'est ma mnémotechnique pour la luxure. Je concède volontiers, cependant, que malgré cela, je n'ai aucune envie d'être l'avocate de la luxure. Le problème, c'est pourquoi elle nous en parle. Qui se livre à la luxure ? Qui en a même juste l'idée ? Pour tout dire, la luxure ne me tente pas pour une raison qu'elle, qui ont choisi d'être recluse, ne saurait comprendre. Il est si doux d'être amoureuse, de laisser divaguer son regard et d'être surprise l'esprit dans la lune.
Eh oui, l'esprit dans la lune. Donc vous voyez là, finalement, elle mélange un petit peu paresse et luxure. Elle nous dit le plaisir de divaguer, le plaisir de l'esprit qui vagabonde, de plaisir au fond de se promener en imagination. Et on sent bien cette jeune fille indépendante, rebelle en effet, qui reproche essentiellement aux religieuses qui l'encadrent dans son école de l'empêcher d'avoir une pensée individuelle et de lui... finalement, de lui suggérer des péchés auxquels elle n'avait même pas pensé. Et puis, elle leur reproche surtout, oui, bien sûr, d'avoir une vision complètement unilatérale de l'histoire, de la société, etc., en ne condamnant que les gens des classes populaires et en laissant de côté soigneusement tous les puissants qui, eux, seraient, à l'écart, justement, des péchés. Alors finalement, elle va conclure, Christiane, en nous disant « Je crois bien que dorénavant, je vais prendre moi-même mon âme en charge. Je vais me débrouiller directement avec Dieu et je m'en sortirai mieux. D'ailleurs, maman qui est pieuse mais sans excès, dirais-je sans ostentation, m'a conseillé de me confesser directement à Dieu un samedi après-midi où, retenue à la maison par des préparatifs, j'avais raté l'horaire de la confession. Eh bien oui, c'est bien finalement d'être en relation directement avec Dieu. Et puis moi, les bonnes sœurs, les religieuses, Bon, je ne dis pas qu'elles sont toutes odieuses et désagréables, mais enfin, franchement, je pense que ce n'est pas leur histoire que j'ai envie d'apprendre. Et quand elles me reprochent mon orgueil, puisque c'est ça dont on était parti, bah, ma foi, mon orgueil, c'est ma cuirasse. Quand même, cette remise en cause totale, totalisante, sans répit, dit pardon, non. Petite fille, destinée à devenir femme, abritant déjà le péché originel, non. Petite fille noire, portant déjà la malédiction de Cham, deuxième péché originel, non. Du rap dans le malheur, non. Petite fille pauvre, forcément promise à un destin de couturière. Et d'ici là, je ferai bien de m'habituer à encaisser les humiliations, à ravaler ma passion à moi et à avaler les outrages qu'on peut me faire. Eh bien, non. Alors, au contraire, je suis et je resterai orgueilleuse. Je sais clairement que moi, je ne fais pas trop de cas de ce qui n'est pas juste. Pour autant, je ne consens à aucun abaissement. La prochaine fois, je recommencerai, je répliquerai et je demanderai, quand je serai punie, à aller dans la bibliothèque. Je ne ravalerai plus ni réplique ni riposte. Plutôt risquer la gifle ou la raclée que ne pas revendiquer mes droits. Voilà, j'ai réglé mes comptes. C'était la nuit où je réglais mes comptes. J'en suis encore un peu excitée. Parce qu'il m'aura fallu pratiquement toute la nuit qui, d'après Mère Agnès, la supérieure de l'école, appartient à Belzébuth. Vous savez, ce diable tout noir, oui. Alors, c'est ça, la nuit, c'est le sombre, c'est là où on se cache. Eh bien, je continuerai à me cacher la nuit et je ne me laisserai pas faire sur la description des péchés par les religieuses. Voilà, c'est un petit peu le je sais pas comment on pourrait dire, la partie argumentative là sur l'éducation et ce qu'elle pense en effet du poids de la religion. Ensuite, la jeune Christiane aborde un épisode beaucoup plus douloureux et difficile, c'est la mort de sa mère. En fait, sa mère décède quand elle est encore bien jeune, à peine adolescente. Et tout de même, il y a des choses qui la consolent, on pourrait dire, à propos du décès de sa mère. Les filles, parce qu'elles sont nombreuses, les filles se retrouvent et finalement se racontent des histoires sur leur mère qui, justement, n'était pas toujours exemplaire et qui, elle aussi, par rapport aux religieuses ou à son éducation, revendiquait des libertés. Et tout à l'heure, on a parlé du carnaval. Eh bien, la maman de Christiane, la maman, figurez-vous, se déguisait pour le carnaval en diable rouge. Et comme les diables rouges, c'était quand même des cohortes d'hommes et de femmes justement revendicatifs, elle s'était dissimulée par rapport à ses enfants de ce déguisement en diable rouge. Donc, c'est après le décès de maman qu'on découvre les photos et les retours sur images, on pourrait dire, de maman déguisée en diable rouge. Voir maman parmi ces diables, elle-même en diable, et de si bonne humeur. Saperlipopette, ventre bleu, sacre bleu, mais que nous réserve donc le monde des adultes et le monde tout court? Est-ce que finalement il n'est pas souvent aussi surprenant? Intuitivement, c'est aussi ce que la mort de maman m'a fait découvrir. Il ne faut pas toujours croire à toutes les apparences. Et c'est bien ce que nous a montré maman, encore en diable rouge, déguisée pendant bien des années et apparaissant maintenant, quelquefois, en diable rouge dans nos souvenirs ou dans nos rêves. C'est vrai qu'à l'issue du décès de maman, la famille est dispersée. Les enfants encore petits vont être chez des tantes, chez des oncles pour être élevés avec leurs cousins et cousines. Ils ne sont pas malheureux, elles ne sont pas malheureuses, mais elles vont tout de même subir cette dispersion. Et elles vont finalement faire connaissance avec des univers différents. Christiane reste en Guyane, mais une de ses sœurs va aller habiter chez une tante en métropole, donc, et avoir une éducation peut-être un peu différente. Donc, lorsque les sœurs se retrouvent, elles partagent ces différences d'éducation. Elles partagent aussi les différences de savoir. Christiane a hérité de l'encyclopédie de sa maman. Elle avait fini de payer l'encyclopédie en 10 volumes, qu'elle avait acquise à raison d'un crédit de 16 mois. Et ces volumes de l'encyclopédie que j'emportais chez ma tante, c'était ma caverne d'Ali Baba. Cette profusion de savoir m'a longtemps laissé l'impression qu'il y avait au moins 15 ou 20 volumes. C'était tellement génial. Je savais pourtant que toutes les connaissances ne s'y trouvaient pas, parce qu'il y avait bien d'autres choses. Par exemple, maman elle-même nous avait raconté des histoires sur l'Égypte ancienne. Et je retrouvais dans l'encyclopédie, bien sûr, les personnages, mais parce que maman m'avait raconté leurs histoires. Akhenaton, Néfertiti, Hatshepsut et les Ramsès. Et puis les histoires de la Grèce antique, les histoires de Rome, les histoires de César et Néron. Les guerres puniques, les grands séismes, les tragédies bibliques, la Mésopotamie. Tout ce que j'avais plus ou moins survolé à l'école, mais que j'avais beaucoup discuté avec maman et que je retrouvais là dans l'encyclopédie. Après les cours d'histoire et de géographie, après les versions latines, c'était toutes nos curiosités, nous, à partir de la Guyane, éveillées pour ces mondes existants encore de la Méditerranée, de l'Orient. Et alors moi, bah oui, j'étais un peu comme sur l'île de l'enfant perdu dans la chaîne montagneuse des Toumoukoumak. Et quand je sortais de l'école, c'était pour retrouver, oui, cette richesse de l'encyclopédie. Mais aux Antilles ou en Guyane, on retrouve aussi le poids de l'esclavage et le poids de l'esclavage en particulier sur les femmes. La vie chez nous est scélérate contre les femmes. Sans pitié, n'épargnant pas celles qui se conforment aux sordides préjugés en restant à leur place ou en singeant les dominants. Le poids de l'esclavage, oui, c'est une société qui est plus clémente aux hommes et vraiment pas clémente aux femmes. Il faut toujours que nous soyons sur nos gardes. Il faut toujours que nous ayons cette conscience aiguisée du danger de l'existence de l'autre, parce que finalement, on risque toujours, comme les religieuses, de nous brandir sous les yeux le miroir de nos effrois. Il nous ressemble, y compris dans sa sueur d'épouvante, et il nous transmet le reflet d'une peur qui n'est pas forcément la nôtre. Et cela nous rend impitoyables les uns et les unes envers les autres. Là où nous devrions déverser des flots d'amour entre nous pour nous sauver nous-mêmes, quelquefois nous nous méfions les unes des autres. Et ceci vient véritablement de la période esclavagiste où chacun devait se battre pour soi, pour préserver un tout petit peu de chance à se sauver finalement. Alors, solidarité, la solidarité, non, ce n'est pas toujours un héritage. Les traces de l'esclavage serpentent encore à l'intérieur de nous. Nous en avons ingéré les interdits, les exclusions et peut-être même digéré des sauf-qui-peut un peu individuels avec une écorce amère. Mais il y a aussi les héros qui se sont battus pour la libération, les chevaliers, même fils d'Espagnols ou même fils d'esclaves, qui ont des mérites importants et qui quelquefois même ordonnés prêtres ont libéré les esclaves ou les ont libérés au moins des tâches les plus subalternes, les plus ingrates, et les ont défendus contre la cruauté des maîtres qui disaient « Vendez, vendez ce chien de noir, vendez même ce chien de mulâtre. Nous sommes là, nous les noirs, pour renflouer les caisses des maîtres. » Eh oui, on nous fouette, on nous chasse, on nous vend, ou du moins pendant des siècles, on nous a vendus, on nous a fouettés, on nous a chassés. Alors l'ostracisme implacable qui frappait éventuellement ceux dont il fallait se débarrasser, eh bien oui, c'est cette crainte de toujours cette crainte que maintenant les mamans créoles doivent repérer et dont elles doivent guérir leurs enfants. Le danger de la séparation que n'a pas subi heureusement la famille de Christiane Taubira, ça a été finalement un exploit. Et la solidarité dont elle regrette qu'elle n'existe pas toujours dans la société créole, la solidarité, elle a vraiment joué à plein dans cette famille. Elle a permis que chacun se retrouve avec les oncles, avec les tantes, et que ses enfants deviennent des adultes solides, astucieux, joyeux, qui ont été de tous les combats, les leurs, les miens, et oui, les nôtres aujourd'hui. Alors, je suis désolée parce qu'on va presque arriver à la fin de l'émission. J'aurais voulu terminer sur un chapitre de Christiane Taubira qu'elle consacre à Steve Biko. Vous savez, Steve Biko, ce militant de la cause de la libération des Noirs en Afrique du Sud, qui est mort à 31 ans sous les coups ou après les tortures de la police sud-africaine, justement. Steve Biko a écrit un livre que, une nuit, bien sûr, Christiane Taubira dévore. Et elle nous livre au fil des pages ce qu'elle a découvert au fil des lignes du livre de Steve Biko. Le titre, c'est « I write what I like ». J'aime, donc j'écris ce que j'aime. Et Christiane Taubira nous dit, ben oui, c'est merveilleux, j'écris ce que j'aime. C'est un livre qui nous donne d'intenses émotions à partager, et puis d'intenses émotions aussi dans le combat, puisque Steve Biko, il n'a cessé de combattre. Et il a toujours dit qu'il fallait que les hommes noirs, bien sûr, puissent exister à la mesure de leur qualité d'homme noir. Il s'est battu pour être respecté, il s'est battu pour faire respecter les droits des hommes qui vivaient dans les townships, et il en est mort. Donc, c'est absolument un combat que Christiane Taubira retrouve dans le livre de Steve Biko, ce combat vers la liberté. Je vais juste terminer ce tout petit bout de paragraphe. J'ai bien déambulé au fil des pages, j'ai bien déambulé dans le livre de Steve Biko, et j'en arrive à la fin, à ce qu'il conclut. Soit vous êtes vivant et fier, soit vous êtes mort. Et finalement, après, enfin, votre façon de mourir peut vraiment être en soi une signification politique, peut avoir une signification politique. Steve Biko n'est plus. Il est mort à 31 ans. Il a expiré à l'hôpital après avoir été admis en provenance du commissariat. Eh bien oui, Steve Biko, ce n'est qu'un de ceux qui sont morts sous les coups de la police en Afrique du Sud ou d'ailleurs. Et donc, avec Christiane Taubira, on peut continuer le combat de Steve Biko, le combat pour le droit des hommes ou des femmes de couleur et des femmes, en effet, de toutes les couleurs à travers le monde. Donc, vive Christiane Taubira, vive Steve Biko. Et je suis désolée, après je m'en vais, je vous laisse quelques semaines, je vais vous laisser des rediffusions pour me remplacer. À bientôt.
Au revoir.